Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Street en direct de Bulle.
À vos marques. Prêt? Tous les sports sur Radio Street.
Bonjour à toutes et à tous. Vous n'êtes sans doute pas passé à côté de la nouvelle lorsque les hockeyeuses suisses nous ont rapporté la médaille de bronze des JO de Sochi. Les hockeyeuses, le saviez-vous? Oui, saviez-vous que ce sport existait de manière compétitive? Depuis quand? Et ce depuis la montée libératrice des femmes comme les premières joueuses de tennis? Je pense à Billie Jean, à ne pas confondre avec la chanson de Michael Jackson. Ou serait-ce plus tard? Eh bien non. Sachez-le, le hockey féminin existe depuis 125 ans déjà. Je vous propose donc un petit reportage sur les racines de ce sport méconnu. Depuis quand?
C'est vers les années 1890 que des équipes féminines se créaient. Elles étaient obligées de jouer en jupe. Pratique pour cacher le puck. C'est au Canada que tout a commencé. En 1920, Lady Isabel Stanley, fille de Lord Stanley de Preston, fait don d'un trophée, la Coupe Lady Meredith, qui serait donnée chaque année à la meilleure équipe de hockey féminin du Canada. C'est la preuve que l'on est bien dans une compétition officielle. Une célèbre hockeyeuse canadienne s'appelait Albertine Lapensée. Au début du moins, il a fini par s'appeler Albert Schmidt. Il a en effet changé de sexe, probablement à cause des pressions de la société de l'époque.
La guerre va donner un dur coup au hockey féminin. De 1936 à 1948 et de 51 à 60, il n'y a aucune compétition nationale au Canada. Il faudra attendre les années 60 avant de revoir du hockey féminin grâce aux universités. Des championnats régionaux reprennent vie un peu partout au Canada. Une toute première tentative de lancer une ligue professionnelle de hockey féminin a eu lieu à la fin des années 1990. Mais faute d'argent, le projet n'a pas fonctionné. À croire que sans la télé, les médias, les sponsors ne sont pas prêts à donner de l'argent pour soutenir de nouveaux sports.
Dès l'été 2007, une initiative d'un groupe de joueuses lance une ligue avec une nouvelle vision. Elle est toujours d'actualité et en fonctionnement. Forcément, d'ailleurs, puisque comme Johan vous le disait au début du reportage, aujourd'hui, même aux JO, le hockey féminin est reconnu. Même que nos Suissesses sont revenues avec une médaille de bronze. À quand les femmes des équipes d'hommes alors? Est-ce que c'est possible au plus haut niveau?
On aurait tout de suite envie de dire non. Surtout dans le hockey où les charges sont violentes et dures. À la rigueur, dans le golf ou dans des sports qui ne dépendent pas de la force et de la vitesse, eh bien non, vous saurez que plusieurs femmes ont joué dans des championnats masculins. Ainsi dans la Ligue nationale de hockey. Manon Réaume fut gardienne de but pour le Lightning de Tampa Bay en pré-saison contre les Blues de Saint-Louis et les Bruins de Boston. En 2003, Hayley Wickheiser signe avec le Kirkonummi Salama, équipe de Suomi Sarja, 3e division du championnat finlandais masculin. Plusieurs femmes ont joué dans les ligues masculines mineures, par exemple les gardiennes Charlene Lamonté, Kelly Dyer, Eric Whiten, Maino Reum ou encore l'attaquante Angela Ruggiero.
Grand bravo donc à vous les filles pour votre persévérance et votre médaille au JO. Et les garçons, ne faites pas trop les machos, car une grande dame du tennis du nom de Billie Jean a battu un ancien numéro 1 mondial en 1973, bien qu'il disait ne jamais pouvoir être battu par une fille. C'était Chloé Despons et Johan Bussard pour Radio Street en direct de la CES 8. À vous les studios.
Si on avait découvert la télévision plus vite, tu ne penses pas que les femmes se seraient mises à faire du sport d'hommes plus rapidement?
Si les femmes regardent la télé, puis d'autres, ils ouvrent la télé, puis ils voient que d'autres femmes jouent, ça les amène à aussi jouer.
Ce que je veux dire, c'est que si les femmes avaient découvert grâce à la télé que d'autres femmes pratiquaient déjà du hockey il y a 125 ans, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin d'attendre 2014 pour avoir une médaille olympique, non?
C'est ce que j'ai dit un peu avant.
Merci Johan et Chloé pour toutes ces informations.
And bad mistakes I've made. Cet instant de publicité vous est offert par la classe C1G. Car rien n'est gratuit, banane!
Les lavages durent plus longtemps avec Onkel!
Mon Dieu, ma machine est en panne. Ma mère m'avait pourtant prévenu, il faut mettre Kangal à chaque lavage.
Mais oui, madame, c'est bien connu. À partir de 100 degrés, le calcaire se dépose sur les cordes chaudes et c'est la mort assurée de votre machine. C'est pourquoi il faut mettre Goncal à chaque lavage.
Mais moi, je ne lave jamais mon linge à 100 degrés, seulement à 60 degrés. À 60 degrés, le calcaire ne se dépose pas.
Pssst! Il ne faut pas dire. Les ménagères gobent l'arnaque depuis 1933.
Les lavages durent plus longtemps avec Goncal.
Au lieu d'une dose de Goncal, mettez 3 francs dans votre tirelire.
Allô ?
Tu veux jouer avec moi ?
Mais si ! Un sarrasin !
Ça farte !
Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent.
C'est une fabrication artisanale. C'est fait à la main, c'est roulé à la main sous les aisselles.
Konnichiwa, enfin, bonjour si vous le préférez. Vous l'auriez compris, on va partir au Japon. Mais pas pour ses sushis ou ses mangas, mais plutôt pour son cinéma. Maître incontesté du cinéma japonais, Hayao Miyazaki, aussi connu dans le reste du monde. C'est son histoire que je vais vous raconter.
L'ancien, tu as vu ce que j'ai vu ?
Oh oui, et c'est pas humain.
Bientôt vous goûterez l'amertume de ma haine.
Mon prince, les pierres m'ont parlé, es-tu prêt à entendre le destin qui t'attend ?
Oui.
Il se passe à l'ouest des événements funestes.
Non, Étienne !
Arrêtez !
Si tu y diriges tes pas et portes sur le monde un regard sans haine, tu trouveras peut-être le moyen de vaincre la terrible malédiction qui pèse sur notre pays.
Pourquoi es-tu venu jusqu'ici ? Dis-moi quelles sont tes intentions.
Porter sur le monde un regard sans haine, c'est tout.
C'est de semer partout la terreur et la haine.
Avec la sortie sur grand écran de Nausicaa de la Vallée du Vent et l'arrivée en DVD de mon voisin Totoro, l'ensemble des films de Hayao Miyazaki est désormais disponible en Europe. C'est l'occasion de revenir sur ses œuvres en nous arrêtant sur quelques films et leurs idées principales. Vers 1990, l'animation japonaise s'est fait connaître grâce à sa manière de raconter les histoires. En effet, on le loin des habitudes de Hollywood, c'est une autre manière que nous allons découvrir avec Miyazaki. Et oui, avec lui, on n'est pas du tout dans le monde de Pixar que tout le monde connaît certainement à cause de Nemo, Wall-E, Toy Story, etc., etc. Ou encore dans le monde de Disney. Juste entre parenthèses, maintenant Disney et Pixar sont devenus une seule et même société. C'est grâce au voyage de Chihiro que l'œuvre de Miyazaki et toutes les recherches du Japon ont été connues du grand public. Il a d'ailleurs reçu beaucoup de prix pour ce film d'animation. Donc un ours d'or au festival du film à Berlin en 2001, un Oscar aux États-Unis. Ces récompenses popularisent l'œuvre du cinéaste et le rendent célèbre Monsieur Miyazaki. Le voyage de Chihiro n'est pas le seul chef-d'œuvre de Miyazaki. On aurait pu croire, mais non. Les dizaines de films, mangas ou films TV qu'il a réalisés sont tous de la même profondeur et de la même qualité. Voilà ce qu'il apporte que les autres, de la profondeur à ses personnages. Une part de rêve qu'on le retrouve toujours. Il réussit à nous faire rêver. Mais attention, en plus de nous faire rêver, Miyazaki monte toujours des scènes très dures, avec beaucoup de morts, où l'armée est souvent montrée comme une machine de guerre, au service des gens du pouvoir qui semblent avoir perdu la tête. La peur de la bombe atomique est toujours présente. Tous ces films sont donc des œuvres avec un message antimilitariste, voire politique. Une chose est sûre, on ne ressort jamais de ces films en flottant sur un petit nuage. En effet, En effet, la possibilité de voir le monde se détruire du jour au lendemain existe dans tous ces films. En même temps, la nature est toujours très présente dans ses œuvres. Elle semble d'être la réponse, voire la solution à ce monde de fous, de guerre et de destruction. Elle représente une sorte d'équilibre parfait qui n'a pas besoin de l'homme pour survivre. Tout est tellement bien pensé qu'on se retrouve même dans un monde à part entière, qui n'est pas abîmé par l'homme et qui montre à quel point on est fou, à quel point on est stupide à risquer de tout détruire. On disait que la force de Miyazaki était de la profondeur à ses histoires. Le message qu'il essaye de transmettre, s'il vous voulez, une chose très importante, ce sont ses personnages principaux. En effet, les héros de ces films ne ressemblent pas du tout aux héros d'Hollywood. Avec Pixar, on sait directement qui sont les gentils, qui sont les méchants. On sait directement comment ils sont. Les personnages de Miyazaki, au contraire, se construisent de petit à petit au fur et à mesure des événements du film. Ils se construisent aussi au toujours rapport avec l'autre. Les spectateurs découvrent donc en même temps que le héros sa personnalité. Cela rend ces films beaucoup plus captivants parce qu'on est un peu comme intégré dans l'histoire. C'est comme un miroir. L'idéal du réalisateur, c'est une société d'entraide, de partage, presque le contraire de ce qui se passe actuellement dans notre société de plus en plus individualiste. Miyazaki reste un grand rêveur, au bon sens du terme. Ce n'est pas qu'il est dans la lune. Pour lui, il est essentiel de pouvoir de s'envoler, le pouvoir de s'évader dans nos têtes. L'enfant le fait très facilement. Voilà pourquoi ces personnages sont des enfants. Ce n'est pas parce que ces films sont pour les enfants. Non, non. C'est plutôt que nous devrions garder en nous cette capacité qu'ont les enfants à s'ouvrir aux choses, à rêver. Cette sagesse qu'ils ont naturellement. Antoine Chavaya, Radio Street, Tokyo. Sayonara.
Pourquoi Miyazaki est-il un bon réalisateur? Il y a plein de réalisateurs, mais pourquoi Miyazaki?
D'abord, grâce à lui, on a pu découvrir les cultures du Japon, style bien sûr sushi, machin, que tout le monde connaît certainement, et puis nous montre de la belle valeur, une si belle valeur, et aussi un beau message, et comme j'ai dit dans mon reportage, une société d'entraide. Et juste, entre parenthèses, les petits extraits audio pour les fans, c'est Princess Mononoke.
Merci Antoine pour ce bon petit moment passé avec nous et pour de nous avoir parlé de cette œuvre et tout. Merci. Bienvenue à toutes et à tous, on se retrouve à nouveau, mais cette fois pour débattre en direct sur les ondes de Radio Street, en présence des trois classes. Nous avons donc entendu plusieurs sketchs, émissions et reportages qui donnent un aperçu du genre de programme que l'on retrouve généralement à la télévision. Ce n'est pas un hasard, puisque nous nous sommes penchés sur les questions liées à l'évolution de la télévision. Vous m'avez sans doute reconnu lorsque je posais certaines questions à la fin des reportages. Flo, alias Mister Jeux Vidéo, nous disait que selon lui, l'évolution du jeu vidéo était très rapide et se remarquait au réalisme des mouvements, la fluidité des personnages. Cela devenait même presque impossible de faire la différence entre des images réelles et des fausses. Antoine, lui, déclarait que la télévision était importante pour partager, excusez-moi, des œuvres aussi enrichissantes que celles de Miyazaki. C'est une question de culture. Qu'en est-il ? Ont-ils raison ? Quel est votre point de vue et qu'en pensez-vous surtout ? Trois classes présentes, la CES6, la CES7 et la CES8. Cependant, avant de commencer, marquons une courte pause musicale.
Pascal Niklas, bonjour et merci d'avoir accepté de répondre aux quelques questions préparées par les élèves de la classe CES8 pour Radio Street. Dans le cadre de cette enquête, cette recherche, dirais-je plutôt, sur l'évolution de la télévision depuis ses débuts jusqu'à nos jours. Vos impressions, votre regard et vos réponses nous seront donc précieux pour amorcer le débat qui va suivre sur les ondes de Radio Street. Alors, première question, comment finalement étaient les télévisions de votre époque ?
Eh bien, dans ma jeunesse, la télévision qui est arrivée dans notre village, c'était peut-être en 1954. Là, c'était un petit meuble carré, mais peut-être de 50 cm de côté. Et c'était actuellement noir-blanc. Encore assez neigeux, et puis très simple, quoi.
Vous habitiez où ?
J'habitais à Wissernans-en-Ogo, qui est un village qui se situe à égale distance entre Romont, Fribourg et Bulle, quoi, c'est-à-dire à 14 km de chaque ville.
Et à l'époque, il y avait combien de chaînes sur une télé noir-blanc ?
Alors, si je me souviens bien, on avait la Suisse romande, une, mais il y avait une chaîne. Et puis certainement la Suisse alémanique, peut-être la tessinoise, mais je ne me souviens pas très bien.
Et quel style d'émission y voyait-on ?
Eh bien, à ce moment-là, en 54, je ne voyais pas de télévision, puisque nous n'avions pas de télévision dans notre famille. Et puis, mais je me souviens que les programmes étaient depuis peut-être 19h du soir jusqu'à 23h. La journée, il n'y avait rien du tout.
Ah, d'accord. Oui, c'est vrai qu'une télé avec rien du tout durant la journée, c'est...
Il n'y avait pas de programme.
Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, il y avait quand même de la publicité ou des choses comme ça qu'on remarquait ?
Il n'y avait pas de publicité encore à ce moment-là à la télévision, mais c'était surtout les informations. Et puis, ils ont commencé peut-être à donner des petits films. Mais là, je ne me souviens pas du tout, alors...
Et puis, vous vous rappelez peut-être à quel moment les premières publicités sont arrivées ? Quelles étaient-elles, ces publicités ?
Les premières publicités, pour moi, elles sont arrivées en 65-70. Mm-hmm. Pas avant. Et puis, c'était... Ouais, enfin, c'est sur l'alimentation un petit peu, etc., quoi.
D'accord. Et votre première... télévision couleur. Ou peut-être, c'était pas chez vous, mais la première fois que vous avez vu déjà une image en couleur, quelle était votre impression ?
Je voudrais peut-être dire avant, la première fois que moi j'ai vu quelque chose à la télévision, c'était en 1958, les championnats du monde en Suède, où il y a Pelé qui a commencé à jouer.
Donc championnat du monde de foot ?
De football, alors oui, de football, oui. Ça, c'était en 1958. Et puis la télévision couleur, elle est arrivée 10 ans après, donc peut-être 65 à 70 aussi.
Un grand changement ?
Oui, bien sûr, dès qu'on a pu avoir la télévision couleur. Mais je me souviens plus trop bien, parce que moi j'ai eu ma première télévision en 1968. Et je ne voudrais pas garantir que j'ai eu la couleur à ce moment-là.
Mmh, mmh. Même si les images étaient couleur, peut-être que les émissions ne l'étaient peut-être
ouais,
pas peut-être, tout encore.
Peut-être, mais j'arrive pas à dire franchement si j'avais acheté une télévision couleur ou pas. C'est pas impossible, mais là je peux pas garantir.
D'accord, merci. Est-ce que vous pourriez nous raconter comment se passait un moment de télévision en famille ? Est-ce que c'était des moments que vous partagiez en famille ?
Bon, c'est-à-dire que moi, dès que j'ai eu la télévision, à ce moment-là, on n'était qu'un couple. On regardait un petit peu le même programme, mais c'était un bout de film où des fois, pour autant que ce soit intéressant, on le regardait jusqu'au bout. Les informations, ça c'était souvent assez intéressant à ce moment-là. Et puis autrement, il y avait un peu de variété, mais peu de variété encore à ce moment-là.
Aujourd'hui, vous avez encore une télévision ?
Oui, j'ai encore une télévision.
Et pourquoi ?
Parce que ça me distrait quand même pas mal. Et puis comme je regarde beaucoup le sport, donc et puis les anciens films. J'aime pas les nouveaux films. J'aime bien les anciens films, western et compagnie.
Mais pour quelle raison les nouveaux films vous déplaisent ?
J'ai l'impression que c'est un peu autrement. Dans le temps, on ne pouvait pas croire ce qui se passait. C'était tellement vraiment un plaisir de regarder ça. On riait, puis le lendemain, on avait oublié. Tandis que maintenant, il y a beaucoup plus ce qui se passe aussi en même temps dans la vie. Toutes ces bagarres, ces armes qu'il y a dans ces télévisions et puis cinéma, j'aime pas trop.
Côté de la violence.
Voilà.
Et de nos jours, selon vous, la télé prend-elle trop d'importance ?
Moi, je trouve qu'elle prend beaucoup d'importance. C'est vrai que c'est un beau passe-temps, mais on aura peut-être tendance à oublier la communication, parler en famille, mais ça, c'est propre à chacun, quoi.
Et d'après vous, comment la télé a-t-elle évolué depuis ?
Bien, je dirais que ça a quand même évolué dans le sens où on est beaucoup informé. Des fois, est-ce qu'on est un peu trop informé ? Est-ce qu'on doit tout croire ce que la télé nous dit ? Je me pose la question.
Et vous avez vécu comment ces changements ?
Oh ben, j'ai suivi le courant, quoi, plus ou moins.
Est-ce que vous auriez un conseil à transmettre à la jeunesse actuelle ?
Oh bien, des conseils concernant la télévision, bien, est-ce qu'il faudrait se renseigner un petit peu plus si c'était possible de savoir si tout est véridique ce qui se passe à la télévision.
Vous voulez parler des informations, de la publicité ?
Un peu de tout, un peu tout.
Mmh, mmh. Donc, est-ce qu'on peut dire que par le passé la télévision était plus à titre informatif, culturel, une sorte de moyen d'informer le peuple de par l'État, et qu'actuellement on est plus vers autre chose.
Informatif, oui, peut-être bien culturel. Maintenant, je trouve qu'il nous donne beaucoup entre, par exemple, Planète et compagnie. Là, on a beaucoup de programmes où on peut voir ce qui s'est passé, pour autant que ce soit juste.
Oui, une fois de plus, oui. Et la publicité, vous la voyez, vous avez certainement vu la publicité devenir de plus en plus présente.
Quelquefois, il me semble que cette publicité, c'est un peu... C'est un peu web, enfin, il faut faire de la publicité, mais elle n'est pas toujours très intéressante. Quoique, certaines publicités, elles sont super. Et puis, ça nous apporte quelque chose. On va dire, ça, c'est intéressant.
Donc, c'est une question d'arriver. Vous dites, ça peut être intéressant, il n'y a pas tout acheté. Voilà. Il n'y a pas tout
à... Il faut choisir.
Il faut choisir et puis être conscient de ce qu'on regarde.
Voilà.
Ouais, absolument. Mais c'est peut-être un bon conseil justement à transmettre à la jeunesse, d'être un peu plus, peut-être un peu méfiant, puis aussi choisir...
Oui, pas se borner sur ce qu'ils nous disent tout le temps.
Tout à fait, croire comme, voilà. Comme si c'était la vérité, absolument. Merci en tout cas d'avoir partagé ces quelques questions avec nous.
Mais ça a été un moment de plaisir.
Ben, merci beaucoup. Et puis, je vous laisserai suivre, si vous voulez bien...
Merci à vous Pascal Niclas qui était interviewé par notre envoyé spécial et poursuivons donc notre enquête avec le débat dont je vous avais parlé. Telle est la question. Précieuse cette intervention, surtout quand on sait qu'aujourd'hui en moyenne il y a 6,3 écrans par foyer. 6,3 écrans par foyer ? Flo, ne sommes-nous pas dans un excès ? 6,3, ça fait trop, non ?
Moi personnellement ça fait trop d'écrans quand même. Bon, moi j'ai un ami, bon après c'est son papa, c'est comme ça, hein, il travaille beaucoup dans l'informatique, il a environ... Comptant les télés, les téléphones, tout ça, il a environ 12 écrans, environ. Ça fait quand même beaucoup. Mais voilà, chacun a sa vision de vivre, et puis c'est pour ça qu'on fait ce débat.
Exactement. La question de notre débat semble donc fondamentale, tant notre rapport à la télévision a beaucoup changé ces dernières années. Quelle place tient-elle aujourd'hui dans nos vies ? Pour y répondre, commençons peut-être simplement en demandant à tout le monde d'ici présent si vous êtes pour ou contre la télévision. Mademoiselle ?
Moi, je suis pour la télévision parce que on peut, bah, par exemple, les paysans, ils ont des informations pour aller faire les foins, en regardant la météo. S'il fait beau, bah, ils peuvent faire les foins, puis s'il fait mauvais temps, bah, ça veut dire qu'ils pourront pas, puis qu'ils devront attendre. Ça peut les informer.
D'accord. Oui, vous, monsieur ?
Bonjour. Ben, comme ça, on peut regarder le téléjournal et ils peuvent nous dire si il y a des trucs qui se passent dans le monde ou pas. Et comme ça, on peut s'informer aussi dans le monde. La météo, ce qu'il va faire et puis c'est tout.
Monsieur, oui.
Moi, je suis contre parce qu'on sauve pas les pandas.
D'accord. Oui. Vous, oui.
Moi, je suis pour parce qu'on peut voir des bons films.
D'accord. Mademoiselle, s'il vous plaît.
Moi, je suis contre certaines émissions de télé-réalité, comme Secret Story, car ça donne de mauvais exemples aux jeunes qui regardent.
Oui.
Moi, je suis contre, car ça crée des conflits entre les frères et sœurs.
Vous ? Ah oui,
je suis contre parce que ça prend beaucoup de place dans les familles.
Moi je suis contre parce que c'est trop souvent coupé par des pubs pour la noix et ça nous oblige à acheter n'importe quoi.
Je suis contre certaines émissions qui passent dans la journée qui ne sont pas adaptées aux enfants.
Alors oui, j'entends ce que tu dis, mais est-ce que tout le monde est d'accord avec toi ?
Oui.
Vous ?
Oui, aussi.
Ok, mais la télévision ne prend-elle pas trop de place ?
Moi, je trouve que oui.
Moi, je trouve que oui, parce que si on est beaucoup de personnes dans la famille, ben ça casse un peu l'ambiance. Puis chacun va de son côté. Puis si au bout d'un moment on aura trois télés, ben ça fait un peu bête.
Moi je trouve aussi que c'est pour lui.
D'accord. Vous ?
Ah moi, ben, moi je trouve que c'est vrai que ça empêche de communiquer, ça empêche de partager des choses en famille si on parle pas des problèmes. À un moment donné, je trouve qu'elle a trop de place et puis elle empêche de vraiment communiquer dans la famille.
Qui mange en famille avec la télé allumée ?
On ne pourra plus parler à table ni rien.
C'est pas ça ma question. Je répète, qui mange en famille avec la télé allumée ? Oui ?
Moi, je mange avec la télé allumée parce qu'on regarde souvent à midi les informations du téléjournal de midi. Et puis le soir aussi, on regarde la météo, et puis le téléjournal tous les jours.
Moi, je regarde la télé quand je mange, mais je trouve ça hyper débile parce que quand on mange le souper ensemble, c'est un truc en famille, puis on doit parler, puis on ne parle pas, on regarde toujours la télé. Est-ce que cela n'empêche pas le dialogue entre les personnes de la famille?
Non, ça n'empêche pas les personnes de dialoguer parce que nous, quand on regarde la télé, on parle quand même en même temps.
Moi, je trouve que oui, parce que on regarde plus la télé et on ne parle pas ensemble.
Voilà. Je vois. Beaucoup d'adultes et d'éducateurs pensent aussi que la télévision est dangereuse et qu'elle prend trop de place pour les enfants. Est-ce que la télévision peut rendre plus intelligent ou alors moins intelligent?
Oui et non. Alors oui, parce que pour des émissions très intéressantes comme d'un documentaire sur, je sais pas, sur la disparition des dinosaures, comment les hommes sont apparus, pour ci, pour ça, et non pour style télé-réalité, l'amour, télé-réalité, les anges de la télé, Cirque Story, l'amour est dans le pré, et toutes ces
Mais donc, finalement, on a le choix de regarder des émissions intéressantes plutôt que des émissions qui nous rendent bêtes ou inconscients.
Ben non, en tout cas, nous, moi, quand je veux pas regarder une émission, ben je zappe sur une autre chaîne.
Mais il faut être conscient pour avoir la force de changer de chaîne, c'est pas facile, et on est hypnotisé avec la télé. Saviez-vous que le responsable de la télévision française, Patrick Lelay, a révélé en 2004, excusez-moi, que son boulot consistait à préparer les téléspectateurs, les divertir et le rendre inconscient pour que les pubs les manipulent le plus possible. Il dit, je cite, « Nous vendons du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. » C'est honteux, non? Vous êtes manipulé par la télévision pour que vous achetiez des trucs que vous n'avez même pas besoin et vous dites rien. On vous lave le cerveau et vous êtes tous contents.
J'ai un truc.
Il a un blanc. C'est le début de l'examen.
Non, moi je regarde là-bas la publicité. Ben, il faut la regarder. Bon, on n'est pas obligé de la regarder, mais moi j'achète. Moi, avant d'acheter, je vais me renseigner. Et puis si c'est bien, bon, je peux acheter. Mais sinon, j'achète pas si j'ai pas plus de renseignements.
Bah, en fait, il y a une ma sœur, elle a vu une de ses pubs publicitaires pour acheter et elle a acheté, mais maintenant elle l'utilise même pas en fait.
Moi, j'ai aussi un truc à dire, j'y pense. Il n'y a pas que les pubs qui nous dit acheter. Pensez aux émissions que vous regardez. Par exemple, tout le monde connaît sûrement Koh-Lanta.
Oui.
Bah, hein, qui a dit non? Moi, j'ai pas besoin d'expliquer, hein, tu demanderas aux autres. Si mais Koh-Lanta, par exemple, sans le savoir, vous avez peut-être envie d'aller chercher quelque chose dans le frigo, comme il y a des fois des passages que Koh-Lanta, ils font souvent pour gagner à manger, gagner du matériel pour avoir du feu ou tout comme ça. Et des fois, vous vous dites, quand vous voyez ça, sans le rendre compte, vous allez chercher quelque chose dans le frigo, parce que vous dites, mais j'ai faim, parce que je vois qu'ils crèvent de faim, et puis moi, j'ai envie de manger. Des fois, ils ont froid, c'est comme ça que vous allez chercher la couverture dans votre chambre. Après, à force d'utiliser ce que vous avez pris dans le frigo, tout ça, après, ça vous forcera d'aller acheter dans les magasins ce qui vous a manqué, qu'est-ce que vous avez grignoté pendant votre série.
N'y a-t-il pas un danger si la télé essaye de nous rendre inconscients?
En fait, j'ai une histoire à vous raconter. c'était un test du Washington Post.
Washington Paul.
Post pour d'un célèbre violoniste qui a un super violon, un Stradivarius.
Stradivarius de 1715.
Merci Florian. Qu'il allait dans le métro aux heures de pointe, jouer les meilleurs morceaux de la musique classique, de musique classique les plus dures. Puis les gens, nulle part, voyaient rien. Ils n'entendaient pas la musique, à part Julien, un gamin qui l'a vu, il y a quelques gens.
Et puis le lendemain, le même gars, il se produisait donc au concert, dans un concert, à guichet fermé.
C'est quand même patient, tu lis dans ma pensée. Je voulais partir de ça aussi, ben, si jamais pour savoir le nom ben, de ce musicien, c'est Joshua Bell. C'est un violoniste hein, très reconnu aux États-Unis, hein, très connu. Ben, comme tu l'as dit, un jour, comme ça, rien savoir, personne ne savait, c'était, ben, comme tu as dit, hein, Washington Post, le journal hein, de là-bas. Ils ont fait comme tu as dit, ils avaient organisé un truc comme ça. Comme ça, personne n'avait rien dit. Il jouait au violon, il y avait juste deux, trois gamins, un gamin qui s'arrêtait, tout le monde passait. Style normal. Il n'était pas habillé classe, il était habillé comme une personne normale. Rien à voir avec le meilleur violon. Puis le lendemain, comme tu as dit, guichet fermé. Tout le monde avait payé leur place, je ne sais pas combien de dollars, 200 dollars, ou je ne sais pas combien. Un truc de fou. Et puis après, tout le monde dit, oh, mais c'était magnifique, c'était les plus beaux morceaux. Et puis il faut se dire qu'avant. Le même personne avait joué les mêmes morceaux et personne n'a rien à cirer.
Et les autres, peut-on les laisser nous manipuler ?
Non, on peut pas les laisser nous manipuler. C'est pas bien.
Et toi, Chloé, que penses-tu de l'évolution des programmes diffusés à la télévision ?
Je sais pas trop quoi dire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai un peu marre des publicités qui passent à la télé lorsqu'on est en train de regarder un film. C'est un peu énervant à la fin.
Mais je veux dire aussi un truc, quand vous passez avec les pubs, je suis d'accord. Mais imaginez-vous qu'aux États-Unis, pendant un film, toutes les 8 minutes, il y a une pub. Vous imaginez, toutes les 8 minutes, il y a une pub. Vous imaginez, ça fait déjà beaucoup. Si on a un film qui dure... Peut-être que j'exagère, mais 3 heures de temps environ, toutes les 8 minutes, à un moment donné, ça vient pompant.
Merci Chloé de ton avis.
Et aussi moi, hein, oh.
Merci aussi Florian. Voilà, nous avons vu que ce débat n'était pas simple et qu'il fallait bien faire attention à ce qu'on nous fait voir et ce qu'on nous dit. En même temps, on a vu qu'il y a vraiment des choses intéressantes, comme quoi c'est ni bon ni mauvais, mais qu'il s'agit de rester conscient et attentif. Voilà, notre émission arrive à son terme. Nous tenons à remercier les classes 7SG et aussi les profs pour leur encouragement et leur aide précieuse. Vraiment un grand merci à vous tous. Je tiens à faire une spéciale dédicace à tous nos parents en vous disant qu'on vous aime. Merci pour tout. C'était Jessica et Flo pour Radio Street.
Back at home, she's got my engine started. This happens every time.